Avant de commencer, j'avais juste envie de vous parler d'un autre podcast que j'aime beaucoup écouter. Ça s'appelle Les Équilibristes. Peut-être que vous le connaissez. Et si ce n'est pas le cas, mais que vous êtes une maman comme moi, ça peut vous intéresser. Parce que chaque semaine, Sandra raconte des histoires de parents qui jonglent entre leur travail, leurs enfants, leur vie de couple, leurs envies, leurs émotions. On est tous pareils en fait et moi je trouve que ça fait beaucoup de bien d'entendre des témoignages sur ce sujet. Et d'autant plus de bien que pendant le confinement, Sandra va encore plus loin dans cette idée de trouver un équilibre dans nos vies qui sont vraiment chahutées, qu'il faut réinventer au quotidien, en invitant plein de personnalités sympas qui nous racontent comment elles vivent ce confinement justement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Le sujet des couleurs, c'est le sujet numéro un en déco. Celui qui nous concerne tous, qui nous questionne tous. On a envie de savoir quelles couleurs on peut associer, quelles couleurs il faudrait privilégier dans telle ou telle pièce, quelles couleurs font du bien ou au contraire celles qu'il faudrait bannir. Donc ça fait quelques mois que je voulais faire un épisode sur ce thème et encore plus depuis que j'avais croisé Jean-Gabriel Causse, designer couleur et directeur artistique des peintures Perrault et compagnie, mon invité d'aujourd'hui. Depuis une quinzaine d'années, Jean-Gabriel suit l'évolution des tendances de la couleur dans les différents domaines, la mode, les cosmétiques, l'automobile et bien sûr la déco et tant d'autres. Il partage ses recommandations dans tous ces secteurs et nous prouve, grâce à différentes études scientifiques ou expériences, à quel point les couleurs influencent nos humeurs ou nos comportements. Alors en cette période de confinement, j'avais envie d'avoir son avis sur le sujet des couleurs dans la maison. Bonjour Jean-Gabriel.
Bonjour Hortense, ravi d'être avec vous.
Oui, moi aussi je suis très contente. On vit une période assez inédite avec le fait d'être confiné chez soi. On passe beaucoup de temps dans sa maison ou son appartement. J'ai pu lire à droite à gauche que pour se sentir bien, en tout cas mieux dans son intérieur, il faudrait plutôt épurer, ranger, éclairer, voire éclaircir, donc plutôt aller vers des teintes neutres, notamment peut-être le blanc. Or, vous, ce n'est pas du tout votre approche. Vous seriez même le genre à dire tout sauf du blanc. Est-ce que c'est à peu près ça, votre philosophie ?
Alors, ce n'est pas ma philosophie. En fait, c'est plutôt le résultat des recherches que j'ai pu faire. Moi, je suis designer, je ne suis pas scientifique. En fait, j'ai Marcel Ruffaut, le pédopsychiatre que vous connaissez certainement à Marseille, ouais, qui m'a demandé un jour de refaire les couleurs de son hôpital, l'espace Arthur à Marseille, avec le professeur Dafonseca. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je mets comme couleur dans la chambre d'un enfant dépressif ? Est-ce qu'on met du rouge pour le réveiller, mais en même temps, c'est peut-être un peu agressif ? Est-ce qu'on met du bleu, mais bleu égale blues ? Enfin, j'avais quelques notions comme ça des influences des couleurs. Et les premières choses que j'ai remarquées, c'est qu'il ne fallait pas mettre de blanc. Parce que le blanc, c'est l'hôpital. Et pour des enfants malades, le blanc, c'est leur rappeler qu'ils sont avec une pathologie. Donc déjà, la première chose que j'ai vue dans les études, c'est qu'il fallait surtout pas mettre de blanc. Et j'ai vu qu'il fallait mettre énormément de couleurs. Et en creusant toutes ces études, après j'en ai fait un bouquin qui s'appelle « L'étonnant pouvoir des couleurs », qui reprend un petit peu justement toutes les données scientifiques sur les influences des couleurs, je me suis rendu compte que toutes les couleurs sont importantes. Le blanc fait partie, le blanc est une couleur qui est importante, mais que l'on vit dans une société, en tout cas en Occident depuis une vingtaine d'années, où il y a beaucoup trop de couleurs désaturées, c'est-à-dire de teintes très, très neutres, et beaucoup trop de blanc. On en reparlera.
Mais pourquoi on met beaucoup trop de blanc, en fait ?
Déjà, essayons de prendre un tout petit peu de distance. Nous, on a l'impression que tout le monde met du blanc chez lui. C'est vrai en Europe, c'est vrai en Amérique du Nord, c'est vrai aussi au Japon. Mais c'est faux dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2 personnes sur 3 dans le monde vivent dans des couleurs fortes. Prenez toute l'Asie, en particulier l'Inde, même aussi la Thaïlande, même en Chine, il y a beaucoup de couleurs. Prenez l'Amérique du Sud, c'est très coloré. Prenez l'Afrique dans son ensemble, c'est très coloré. L'Amérique centrale, même jusqu'au sud des États-Unis, même le Texas, c'est très coloré. La Californie est très colorée. Donc, vous avez vraiment 2 personnes sur 3 qui sont dans des couleurs fortes. Mais nous, en Europe, en particulier en France, on est dans des univers désaturés. Donc, c'est un peu nous qui sommes... différente du reste du monde, d'autant plus que nos parents, surtout nos grands-parents, étaient dans la couleur. C'est-à-dire que, même rappelez-vous, certainement, la chambre quand vous étiez petite, certainement qu'elle était très colorée. Chez vos grands-parents, il y avait certainement la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rouge, et aujourd'hui, dans toutes les maisons, il y a la chambre blanche, la chambre blanche et la chambre blanche. Donc, regardez tous ces papiers peints qui étaient très forts dans les années 80 et que l'on arrache aujourd'hui un peu avec dégoût en se disant « Oh mon Dieu, ces papiers peints sur les 4 murs, c'est pas possible ». C'était vraiment un monde où la couleur était très forte. Donc, c'est vraiment aujourd'hui l'Occident en particulier qui a complètement oublié les couleurs.
Et pourquoi on a oublié ces couleurs ? C'est forcément que le blanc, du coup, nous apporte quelque chose.
Alors, le blanc, oui, qu'est-ce que le blanc nous apporte ? Il nous apporte que on se pose pas de questions. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus facile de mettre du blanc. Alors, ça vient en grande partie des architectes. Moi, j'ai la chance de donner souvent des conférences, que ce soit à des étudiants en architecture, mais aussi beaucoup à des architectes professionnels. Et ils me disent tous qu'ils ont une formation à la couleur qui est vraiment très très faible. C'est-à-dire qu'ils étudient énormément les matériaux, les mouvements, mais très peu les couleurs. Ils sont très rares, les architectes, à mettre plus de 1, 2 ou 3 couleurs. Et à la limite, les architectes aujourd'hui qui sont en France les plus connus qui travaillent vraiment à la couleur, je pense à des gens comme Villemotte, par exemple, c'est pas un architecte à la base. Mais la caricature pour moi de celui qui, même s'il y a des contre-exemples, c'est quelqu'un comme Jean Nouvel, par exemple, qui est toujours habillé en noir, c'est pas quelqu'un qui est vraiment fondamentalement dans la couleur, ou alors c'est très rare. Donc beaucoup d'architectes refusent quelque part la couleur, veulent le matériau brut. Ça vient du Corbusier. C'est-à-dire que ce que tous les architectes actuels ont aimé chez le Corbusier, c'est ce côté de partir des bétons bruts, de partir de la matière brute. Mais ce que ces architectes actuels ont oublié, c'est que le Corbusier associait ces bétons bruts à des couleurs très vives. Prenez la Cité radieuse, par exemple, vous avez des couleurs primaires un petit peu partout. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs associées à du matériau brut. Aujourd'hui, il n'y a plus que du matériau brut. Alors, c'est en train un petit peu de changer avec de jeunes architectes qui recommencent à aimer la couleur, mais les architectes des 20 dernières années ont vraiment privilégié les matériaux aux couleurs, et c'est pour ça qu'ils faisaient même les bureaux, souvent étaient des bureaux qui étaient sans couleur, en se disant, on verra qui va l'occuper, et puis ils se débrouilleront, s'ils veulent mettre de la couleur, ils en mettront. Mais ce n'était pas dans leur cahier des charges. Idem dans les appartements. Les appartements étaient très très peu colorés parce qu'on se dit on met en blanc et puis après quand on le loue on verra, ou un promoteur il dit je le fais en blanc et après chacun se débrouillera. Et je pense que c'était une erreur fondamentale.
Mais la couleur, ça peut être oppressant aussi, justement, c'est peut-être pour ça qu'on se tourne vers du blanc.
Alors je suis ravi que vous me posiez cette question. Que la couleur soit oppressante, c'est simplement que quand je dis vous, c'est en général, nous avons peur de la couleur. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est sur un lagon à Tahiti et qui vous dit au bout d'un moment, oh là là, tout ces camaïeux de turquoise, mais c'est oppressant toute cette couleur, j'en ai marre. Non, je vous garantis qu'il n'y a pas... Fondamentalement, on est des animaux. Il y a encore quelques milliers d'années, on était vraiment dans la nature, partout tout autour de nous. Notre cerveau n'a quasiment pas évolué. Et aujourd'hui, on est dans des univers qui sont achromatiques, c'est-à-dire très très peu de couleurs. Et ça nous déséquilibre. On a fondamentalement besoin de couleurs. Donc de penser que la couleur vous oppresse, c'est une vision qui vous auriez dit cette phrase à vos grands-parents, et vous auriez regardé avec des grands yeux, en disant, mais pourquoi est-ce que la couleur m'oppresse ? Eux, ils étaient dans la couleur. Alors, ce qui est oppressant, pour aller dans votre sens, c'est quand vous n'avez qu'une couleur chez vous. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, imaginez, vous, comme beaucoup de gens, vous avez un appartement blanc et vous vous dites, là, je mettrais bien de la couleur dans mon séjour. Et là, vous vous dites, quelle couleur je mets ? Et là, au fond de vous, vous vous dites, quelle que soit la couleur que je vais mettre, je suis sûr que je risque de m'enlacer ou qu'elle m'oppresse. Eh bien, c'est possible. C'est possible, pourquoi ? Parce que si vous ne mettez qu'une couleur chez vous, ce sera déséquilibré vers cette couleur. Ce que faisaient nos parents et ce que font encore beaucoup de monde dans le monde entier, c'est d'utiliser de nombreuses couleurs dans votre appartement ou dans votre bureau. C'est-à-dire que vous avez du bleu, du vert, du jaune, du rouge, du rose, du violet, etc., etc. Ce qui fait que ça crée un équilibre. C'est-à-dire que, comme dans la nature où on retrouve absolument toutes les couleurs, dans votre environnement, vous avez intérêt à retrouver toutes les couleurs. Donc le blanc, ça n'existe pas si ce n'est peut-être au pôle Nord. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous regardez les habits traditionnels des Inuits, les Esquimaux, etc., il y a beaucoup de couleurs. Si vous regardez tous ces villages au nord du monde, c'est des villages qui sont ultra colorés. Il y a beaucoup de couleurs même dans leurs intérieurs. C'est-à-dire que ces gens qui vivent dans du blanc, ils cherchent de la couleur et ils ont besoin de couleurs.
Mais il vaut mieux multiplier les couleurs ou faire des camailleux? Parce que multiplier les couleurs, c'est ça qui fait peur. C'est qu'il faut savoir aussi les associer. Comment savoir si elles vont ensemble?
Alors, le plus simple, pour moi, c'est de privilégier une seule couleur dans un premier temps dans chaque pièce. C'est-à-dire que vous avez une couleur dans votre salle de bain, une couleur dans votre séjour, une couleur dans votre chambre si vous avez la chance d'avoir des grands appartements ou des maisons, mais c'est vraiment de varier les couleurs au maximum, que chaque pièce ait son ambiance chromatique qui lui est propre, en essayant d'avoir des couleurs chaudes, donc jaune, orangé, rouge, et des couleurs froides, donc dans les bleus, et vous avez aussi les couleurs au milieu du spectre du visible, que sont les verts. Donc c'est des couleurs très équilibrées, très équilibrantes. Voilà, c'est d'essayer de varier, de ne pas avoir que des couleurs froides et de ne pas avoir que des couleurs chaudes. Après, vous pouvez jouer sur des contrastes dans une même pièce, ou vous pouvez jouer, comme vous dites, sur des camailleux, c'est-à-dire des couleurs relativement proches en jouant sur des couleurs plus ou moins lumineuses, c'est-à-dire qu'on a un bleu, il va être du bleu marine jusqu'au bleu ciel avec différentes tonalités de bleu pour rester dans un esprit. Donc vous pouvez jouer ça, mais si vous aimez les camailleux de bleu, ne le faites que dans une pièce, et faites un camailleux de vert dans une autre et un camailleux d'oranger dans une troisième.
Mais comment on fait pour pas se tromper?
Alors, pour pas se tromper, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà de ne pas forcément suivre les modes et d'écouter votre petite voix intérieure. Votre petite voix intérieure, c'est simple, quand vous regardez des Pinterest ou des Instagram, regardez des sites de déco, et quand vous dites « Ah, ça, j'aime bien !» Ben, le « j'aime bien », votre petite voix intérieure vous dit « ça vous correspond ». Voilà, faites confiance à votre goût. Vous dites pas « est-ce que c'est branché, est-ce que ça va plaire, est-ce que si, est-ce que ça... » C'est « est-ce que vous aimeriez vivre dans cette pièce avec cette ambiance chromatique ?» Et si la réponse est oui, c'est que c'est une bonne couleur pour vous.
Parce que souvent, on entend, moi dans mon univers, là, la déco, on dit « oh, je sais pas faire, j'ose pas ». Pour vous, il suffit de s'écouter en fait, c'est ça la réussite.
Alors, je pense que la plupart des gens pourraient le faire. Et dans les j'ose pas, il y a, parce que je connais bien aussi ce milieu-là, il y a deux profils. Il y a le profil de ceux qui n'ont pas le temps, ou qui disent « j'aime beaucoup l'univers d'un tel, je vais lui faire confiance, il va se débrouiller, il le fera mieux à ma place », et ceux qui disent « j'ai pas le temps ». Voilà. Et après, ceux qui n'osent pas. Mais moi, je pense qu'on a tous du goût, en fait. Moi, je suis persuadé de ça. Alors, ce qui est compliqué, parce que tous avoir du goût, là, vous avez forcément en tête des amis à vous, vous dites « ah oui, non, lui, il a vraiment pas de goût, ou elle a vraiment pas de goût ». C'est sûr, on en a tous. Mais quelque part, c'est leur goût. Et s'ils l'assument, et s'ils se sentent bien dans cette ambiance, mais qu'ils le fassent. Moi, je travaille beaucoup en Asie, et je vous garantis, des fois, je suis dans des intérieurs de personnes en Chine, je vous garantis que c'est pas du tout dans mes goûts. Mais quelque part, si c'est dans leur goût, je suis personne pour dire quel est le bon goût, quel est le mauvais goût. Donc voilà, je pense qu'il faut oser, et beaucoup de personnes n'osent pas parce qu'ils ont peur que d'autres personnes disent qu'ils ont mauvais goût. Mais c'est pas vrai. S'ils se sentent bien dans un univers, c'est forcément du bon goût, puisque c'est du bon goût pour eux.
Alors, et c'est vrai que là, j'avais envie de rattacher l'épisode à la période de confinement. Quelles sont les couleurs qui font du bien? Celles que vous recommanderiez ou qu'on recommanderait pendant des périodes comme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on devrait mettre comme couleur dans nos maisons, dans nos appartements actuellement pour mieux vivre peut-être le confinement?
Alors, il y a une couleur qui est absolument extraordinaire et qui est un peu sous-estimée et pas assez utilisée en Europe, c'est le rose. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études qui démontrent, des études scientifiques, que quand vous regardez un aplat de couleur rose, et qu'on regarde ce qui se passe dans votre cerveau avec des électrodes, on se rend compte que vous activez énormément de zones différentes. On est au début des neurosciences, donc on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais quand on regarde une image de bonheur, c'est une étude en Angleterre où on montrait des images d'enfants heureux, d'enfants qui sourient, on se rend compte que dans notre cerveau, on active exactement les mêmes zones. Donc l'expression « voir la vie en rose », depuis 4 ou 5 ans, elle est scientifiquement prouvée. Donc le rose est une couleur formidable. Vous voyez du rose, vous voyez du bonheur. Donc déjà, ça c'est une bonne chose, on devrait tous avoir du rose chez soi ou porter du rose d'une manière ou d'une autre, avoir du rose quelque part. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, c'est de varier les couleurs. Parce que quand on est confiné chez soi, il y a une certaine monotonie. Encore une fois, je parlais de nos ancêtres qui étaient dans la nature, ils se levaient le matin, il y avait la couleur de l'herbe allait changer, ils allaient la couleur de l'eau, le ciel qui change, etc. Donc il y avait des couleurs qui changeaient en permanence, la couleur des fleurs, etc. Ils voyaient énormément de couleurs. Quand on est bloqué chez nous, on ne voit qu'une couleur ou très peu de couleurs. Donc, d'avoir de nombreuses couleurs chez soi, d'avoir un petit bout de jardin, ça change tout. Parce que justement, on a toutes ces couleurs, on a ce vert. Et c'est quelque chose d'important. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir un appartement le ressentent peut-être un peu moins, mais ceux qui sont coincés dans un deux pièces blanc, je pense que effectivement, c'est très difficile.
Mais la couleur, on l'apporte comment pour vous ? C'est forcément par les murs, la peinture, du papier peint ? Pensez aussi à des touches de couleur, le mobilier, les objets déco.
Alors, sachez que la couleur la plus forte, c'est le rouge. C'est-à-dire que si vous mettez, même dans une pièce blanche, vous mettez deux meubles rouges ou un tapis rouge, on aura la perception que cette pièce est rouge. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui sont plus ou moins fortes pour devenir dominantes. Mais bien sûr, la couleur, elle est partout, elle n'est pas que sur les murs. Moi je recommande beaucoup, j'aime beaucoup en ce moment les papiers peints. Alors c'est une mode qui est en train de prendre, je trouve qu'elle est formidable, c'est de trouver des jolis papiers peints et de faire un mur avec ce papier peint, parce que rien que ça, déjà au moins on a 5 ou 6 couleurs souvent par le papier peint sur notre mur. Si on prend des papiers peints un peu chargés, que je trouve très, très intéressant, il y a beaucoup de choses dans les fleurs qui sont très belles en ce moment, aussi avec des animaux, enfin, il y a beaucoup de choses, un esprit jungle qui sont très, très, très sympas en ce moment, donc voilà.
Donc pour vous, il y a des couleurs du bonheur un peu.
Alors la couleur du bonheur, c'est un, le rose, on en a parlé. Deux, c'est la couleur qui au fond de vous vous plaît. Et je vous garantis que quand on parle des fois de couleur préférée, c'est peut-être la couleur, quand on ferme les yeux, on se dit cette couleur, elle me fait du bien. Alors pourquoi est-ce qu'elle vous fait du bien ? Il y a quelques scientifiques qui parlent d'épigénétique, c'est-à-dire que ça peut avoir des origines même qui remontent à vos parents, vos grands-parents, etc. Et peut-être qu'il y a des événements positifs qui se sont produits pour vous ou vos ascendants avec cette couleur qui font que cette couleur vous plaît. On s'est rendu compte, d'ailleurs c'est assez marrant, que beaucoup d'enfants de marins pêcheurs adoraient le bleu. On dit enfants de marins pêcheurs qui ne sont pas en mer, justement, qui sont assez loin de la mer. Et on se rend compte que dans les peuples marins, peut-être parce qu'ils ont leurs parents ou leurs grands-parents ont vu le bleu et ont apprécié d'être en mer, c'est devenu une couleur qui est autant appréciée. Donc, la couleur du bonheur, c'est votre couleur préférée, forcément, et le rose, et de mélanger et de multiplier les couleurs, c'est l'arc-en-ciel.
L'arc-en-ciel, c'est-à-dire?
C'est-à-dire d'avoir beaucoup de couleurs et de ne pas rester sur une seule couleur. De toute façon, même votre couleur préférée, si vous n'avez chez vous que votre couleur préférée, ça va être déséquilibré, ça ne sera pas agréable.
Oui, mais les couleurs, elles diffèrent aussi selon les pièces, j'ai l'impression, non ? On n'a pas, elles n'ont pas le même effet. Par exemple, vous parlez du rouge, moi j'ai toujours entendu qu'il ne faut surtout pas mettre de rouge dans une chambre parce que ça excite, par exemple. Enfin, ça excite au mauvais sens du terme.
Mauvais sens ou pas que d'ailleurs. Il y a une étude qui a été menée en Angleterre dans les magasins Littlewood où on a demandé aux personnes quelle était la couleur dominante dans leur chambre à coucher et combien ils avaient de rapports sexuels par semaine. Et alors le rouge n'a pas gagné. Moi je pensais que le rouge allait gagner. Non, il a été légèrement dépassé par le mauve. Donc le mauve est la couleur qui pousse le plus à la sexualité. On est à 3,5 je crois en mauve et 3,3 en rouge. Par contre dans une chambre blanche, grise, beige, etc., on est à 1, quelque chose. Donc voilà. Et est-ce que faire un câlin n'est pas le meilleur des somnifères ? Je me pose la question. Pour beaucoup de personnes, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est vrai que je ne recommanderais pas de mettre du rouge aux personnes insomniaques. Parce que c'est compliqué, voilà, ça peut vous réveiller. Mais si vous n'avez pas de problème de sommeil, le rouge est une formidable couleur dans votre chambre, qui a aussi l'avantage de vous réveiller le matin. C'est-à-dire que ceux qui ont du mal à se lever, moi je vois mon fils par exemple, il a une moquette rouge. Ça suffit pas. Ça suffit pas à le réveiller, mais c'est déjà un petit plus qui va l'aider à, voilà, le matin, à lui donner un petit peu d'énergie pour poser le pied par terre.
D'accord. Vous parlez du rouge, donc est-ce qu'on peut faire dérouler quelques couleurs pour vous me dire votre avis? Par exemple, le bleu, qu'est-ce que ça apporte le bleu dans un intérieur?
Alors le bleu, on sait tous que c'est une couleur relaxante, et c'est vrai, là aussi, il y a énormément d'études qui démontrent que votre rythme cardiaque, pression artérielle, nombre de battements de paupières vont diminuer. Donc vraiment, le bleu est une très très bonne couleur relaxante. C'est aussi, et ça on le sait depuis peu, une couleur qui pousse à la créativité. On se rend compte qu'on est plus créatif dans un environnement bleu. C'est-à-dire que voilà, on a de meilleures idées. Par contre, on travaille
je
moins bien.
Je crois que c'était le orange.
Ah non, les deux couleurs créatives, c'est le bleu et le vert. C'est les deux couleurs, ça a été démontré, où on trouve les meilleures idées, ce sont ces deux couleurs-là. Le orange, c'est la meilleure couleur qui soit pour la communication. En fait, quand vous regardez, là aussi, il y a beaucoup d'études intéressantes sur on regarde des aplats de couleurs et on regarde ce qui se passe dans le cerveau. Quand vous regardez du orange, vous activez beaucoup de zones, mais en particulier la zone du langage. Donc, c'est la couleur de la communication. Voilà aussi l'une des raisons pour laquelle on a un opérateur de téléphonie mobile qui porte le nom de ce fruit. C'est vraiment la couleur de la communication. Couleur créative bleu, bleu-vert. Et donc, du coup, par opposition, le rouge, on est moins créatif dans du rouge. Mais par contre, on est plus productif. C'est-à-dire que si vous devez rester concentré longtemps, vous travaillerez avec une meilleure productivité dans du rouge ou dans du orange que dans du bleu ou du vert. Voilà. Donc, chaque couleur a ses points positifs et ses points négatifs.
D'accord. Et le jaune, par exemple ?
Ah, jaune, formidable couleur qui est malheureusement pas assez utilisée, parce que quand vous avez du jaune chez vous, vous avez un soleil dans votre maison. Donc, c'est vraiment une couleur que je recommande. Il fait toujours beau chez vous. Et c'est une couleur chaude. C'est aussi le feu. C'est une couleur qui fait du bien, une couleur qui réchauffe sans avoir l'agressivité du rouge. Donc, c'est une très, très belle couleur. La difficulté du jaune, c'est qu'il y a beaucoup de jaunes qui vont pas forcément avec le blanc. Donc l'esprit, on fait un mur en couleur et trois murs blancs, ça marche un tout petit peu moins bien avec du jaune. Ça marche, le gris va très bien avec le jaune, par exemple, et même des gris clairs. Mais le blanc, c'est pas forcément la couleur qui s'associe le mieux avec le jaune. C'est peut-être pour ça qu'on a peut-être pas autant de jaune que ce qu'on devrait avoir.
Et le noir, qu'est-ce que vous pensez du noir ?
Alors, quand on parlait tout à l'heure de couleur du bonheur, il y a une chose aussi qui est certaine, c'est couleur égale lumière. C'est-à-dire sans lumière, on n'a pas de couleur et on a besoin d'énormément de lumière pour être heureux. On est des tournesols, on a vraiment tous besoin de lumière. Le noir a tendance à absorber la lumière. Donc, si vous habitez un appartement ultra lumineux et que vous vous dites « je vais faire un mur noir », vous pouvez, c'est magnifique, c'est très très beau. D'un point de vue esthétique, c'est magnifique. Mais d'un point de vue fonctionnel, vous avez vraiment intérêt à avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, pardon, chez vous pour des murs noirs. Meubles noirs, c'est plus facile, mais mur noir, donc une présence noire très forte, c'est un peu compliqué. Mais le noir est une formidable couleur, c'est un écrin, ça met en valeur les choses. C'est-à-dire qu'un tableau, quel qu'il soit, sur un fond noir, il est magnifique. Les bijoutiers présentent des bijoux sur du velours noir. Donc c'est un très très beau faire-valoir, c'est un des plus beaux faire-valoir qui soit, le noir.
Et le violet, je ne vais pas vous faire toutes les couleurs, mais c'est que le violet, ça revient en déco, et il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément.
Oui, c'est une couleur qui est très particulière. En fait, il y a plusieurs raisons. En fait, sachez que le violet, par exemple, à côté d'un bleu, on a l'impression que c'est une couleur chaude, et à côté d'un rouge, c'est une couleur froide. Donc déjà, elle peut être considérée comme chaude ou froide. C'est selon son contexte, premièrement. Deuxièmement, alors c'est un tout petit peu technique, mais c'est assez intéressant. Nos yeux perçoivent des longueurs d'onde entre l'infrarouge et l'ultraviolet. D'accord ? Donc entre le rouge et le violet. Donc les deux couleurs les plus opposées qui soient, c'est le rouge et le violet. Donc comment se fait-il que le rouge et le violet soient perçus comme des couleurs relativement proches ? On n'arrive pas à imaginer un rose vert, par exemple, mais un rouge violacé, on arrive. Alors que ce sont des couleurs très opposées. Et en fait, il faut savoir que la zone du cerveau qui traite l'information de la couleur, donc qui crée les couleurs dans votre cerveau, il y a une porosité entre, quand ça devient un peu technique, mais il y a une porosité entre les récepteurs du rouge et les récepteurs du violet qui font que l'on perçoive cette couleur violette. Mais la couleur violette, en fait, elle ne devrait pas exister. Et dans le milieu de la nature où les récepteurs ne sont pas forcément aux mêmes endroits dans les cerveaux, je pense qu'il y a, enfin, pas moi, mais les scientifiques pensent qu'il y a très très peu d'espèces sur Terre qui perçoivent le violet. Donc c'est une couleur assez mystérieuse, et c'est une couleur qui est très très forte, très puissante dans tout ce qui va être introspection. vous faites de la méditation, c'est une très bonne couleur. Il y a beaucoup de cabinets de psy qui sont avec du violet. C'est une couleur vraiment très bien dans la religion. À peu près toutes les religions ont du violet de façon très présente. Il y a je pense aux cardinaux qui ont leur robe violette, etc. Mais dans toutes les religions, c'est la même chose. Donc c'est vraiment la couleur de l'introspection. On est bien avec soi-même dans du violet, on réfléchit. Donc certaines personnes n'ont pas forcément envie de ça, d'autres l'apprécient, mais c'est l'une des couleurs qui laisse le moins indifférent, oui.
Donc là, si on veut, est-ce qu'il faut retenir ce que vous nous dites? Il y a une symbolique des couleurs ou vous n'êtes pas là-dessus, justement?
Alors, bien sûr, il y a une symbolique des couleurs, c'est-à-dire que chaque couleur, par notre éducation, signifie des choses. Mais il y a l'inné et l'acquis, si vous voulez. L'acquis, c'est la symbolique, et l'inné, c'est ce qui est propre à tous. Quand je vous dis que votre cerveau perçoit du rose comme du bonheur, c'est valable dans le monde entier. Par contre, pour rester sur le rose, en Occident, ça peut être perçu comme une couleur relativement féminine. C'est-à-dire qu'en symbolique, un homme qui s'habille en rose, on va se demander quelle est son orientation sexuelle. C'est une question qu'on ne se poserait absolument pas en Inde. Un homme habillé en rose en Inde, la symbolique n'est pas du tout la même. Au contraire, là, on part sur des symboliques de caste. Donc, les symboliques, c'est de l'acquis. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est neurosciences. Donc, c'est plutôt l'inné propre à tous les humains.
Est-ce que les hommes et les femmes ont la même perception des couleurs?
Ah, ça, c'est une très bonne question. On sait depuis peu de temps que non. En fait, on ne voit pas tout à fait les mêmes couleurs. Personne. En fait, il n'y a pas deux humains sur Terre qui verraient les mêmes couleurs. Certaines personnes ont une meilleure perception des couleurs, c'est-à-dire en gros, voient plus de couleurs. C'est-à-dire que si je vous mets, selon les personnes, on va dire 300 000, c'est un chiffre maintenant qui est en train de prendre de l'importance. On considère que vous, par exemple, vous êtes capable de voir 300 000 couleurs. C'est-à-dire que si je vous mets 300 000 cartes de couleurs légèrement différentes à côté, vous êtes capable de voir qu'une carte est peut-être un peu plus foncée que l'autre, etc. Les hommes, on serait un peu moins, on serait peut-être à 250 000, donc déjà mieux que nous. Les daltoniens, encore moins. Certaines femmes, encore plus que 300 000, donc on perçoit des couleurs différentes, et après on ne voit pas les mêmes couleurs. C'est-à-dire qu'on sait que les femmes voient les couleurs un peu plus chaudes que les hommes. Les hommes les voient un peu plus froides. En gros, l'herbe, je la vois un peu plus bleue que vous, et vous la voyez un peu plus jaune que moi.
Et pourquoi on aime certaines couleurs et pas d'autres? On parle d'hommes-femmes, là, par exemple. Pourquoi on dit que l'homme n'aime pas le rose, par exemple?
Alors là, on est purement dans l'acquis, parce que...
Et purement dans le cliché aussi, hein. Désolée ouais. Pour cette question, mais...
C'est une très belle étude qui a été menée dans des écoles, dans des crèches. Au départ, on a fait jouer des enfants, garçons et filles, avec des jouets bleus et roses. Et on s'est rendu compte que jusqu'à l'âge de 2 ans, petits garçons et petites filles jouaient exactement autant avec du rose qu'avec du bleu. On était à 50%. À 5 ans, il n'y avait plus qu'un petit garçon sur 5 qui jouait avec des jouets roses et une petite fille sur 5 qui jouait avec des jouets bleus. C'est-à-dire que c'est l'éducation, ou c'est les grands frères, les grandes sœurs qui leur ont dit « ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons ». Mais de manière naturelle, les garçons aiment autant le rose que les filles.
Et qu'est-ce que vous pensez dans le monde de la déco, ça se fait beaucoup tous les ans, il y a la couleur de l'année, que ce soit la couleur qui est élue par Pantone ou par d'autres marques, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Moi je pense que tout ce qui peut vous donner envie, nous donner envie à tous de mettre de la couleur chez nous, que ce soit en mobilier ou sur nos murs, ça nous fait du bien. Voilà, parce que moi je milite contre nos appartements qui sont très jolis sur Instagram, tout blanc, tout désaturé, mais en fait qui ne sont pas du tout agréables à vivre. Donc voilà, tout ce qui peut dire cette couleur est bien. Si certaines personnes se disent bon, ben, si Pantone dit que c'est une jolie couleur, moi elle me plaît bien, je vais l'utiliser, tant mieux. Voilà, si ça peut donner confiance à certaines personnes, tant mieux. Mmh. Après, il y a beaucoup de marketing derrière tout ça.
Ouais. Et quelle couleur vous nous conseillez, par exemple, si on se dit dans la cuisine?
Alors, la cuisine, ça dépend. En fait, ça dépend si vous voulez bien manger ou faire un régime. C'est pas pareil. Si vous voulez bien manger, la meilleure association de couleurs qui soit, c'est le rouge et le blanc. Qui va vraiment vous donner, vous ouvrir l'appétit. Les restaurants où la déco est rouge et blanche ont un ticket moyen supérieur. Ça a été prouvé, c'est-à-dire qu'on a pris des restos qui étaient relativement neutres, on a mis du rouge, et on pensait que ça allait augmenter la quantité de viande qui allait se vendre, parce que rouge égale sang, peut-être. C'est le cas, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on prend plus de desserts aussi dans un restaurant, dans une salle de restaurant où il y a beaucoup de rouge. Donc dans votre cuisine, c'est pareil. Si vous avez du rouge, vous allez avoir envie de cuisiner, de bien manger. Donc pour le régime, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et inversement, le bleu va vous donner moins envie de cuisiner. Donc la couleur la moins alimentaire, ça va être le bleu. Et par contre, dans du bleu, peut-être que vous serez un peu plus light, vous aurez justement plutôt envie d'essayer de un peu plus végétarien, enfin des moins de calories, etc. Donc voilà, ça dépend de votre objectif.
Chambre, on a fait, vous nous avez dit qu'il faut privilégier les couleurs autour du...
Il faut s'écouter dans une chambre, vraiment, il faut s'écouter. Et alors, si j'ai aussi un conseil à vous donner pour les chambres, on n'en a pas parlé, c'est les enfants. Je ne crois pas que sur Terre, un seul enfant dans le monde ait jamais dit « je voudrais avoir une chambre blanche ». Ça n'existe pas. C'est-à-dire que demander à un enfant de 5-6 ans « quelle couleur tu veux ta chambre ?», il a forcément une couleur. Il veut du bleu, du vert, du jaune. Alors, il va y aller très fort dans la couleur, parce que nos enfants, avant d'être formatés par notre éducation, aiment les couleurs très vives. Mais je vous garantis que si votre fils dit « moi, je veux une chambre bleu pétrole », mais allez-y, bon, commencez par un mur, peut-être, effectivement, parce que peut-être qu'après, ça sera trop. Mais écoutez vos enfants et laissez-les mettre de la couleur dans leur chambre.
Il faut les écouter, oui, vous vous dites, parce que si votre fille, elle veut du rose princesse et que...
Ben c'est formidable. Si c'est elle qui veut du rose, alors peut-être qu'après, dans 2 ans, elle voudra changer, mais très franchement, les peintures, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ça prend un peu de temps pour repeindre chez soi, mais faire un mur rose, si 2 ans après, on le repeint en vert ou en jaune, c'est pas très compliqué. Donc, il faut écouter vos enfants et mettez de la couleur dans leur chambre, je vous en supplie.
Et dans le salon, l'espace principal familial?
Alors, là, ça va dépendre aussi de l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que pour choisir une couleur collective, la meilleure chose à faire, c'est de vous réunir tous et de vous dire qu'est-ce qu'on met comme couleur. Là, je parle pour les familles. Et là, c'est simple. C'est compliqué de choisir une couleur sur un nuancier. Donc, moi, je vous conseille plutôt de choisir une couleur en regardant des images de déco. En regardant, voilà, je trouve que le site Pinterest est extraordinaire où vraiment il y a plein de choses. Dès qu'on aime une ambiance, on peut trouver des milliers de photos dans le même style, etc. Donc, regardez plein de choses et mettez-vous d'accord. C'est la meilleure façon d'avoir quelque chose qui va vous plaire parce que ça va vous correspondre. Donc c'est compliqué de dire mettez telle couleur en telle pièce. Après, chacun a ses propres couleurs. Moi, je vous donne juste
une petite. Et juste dans dernière pièce, peut-être dans un bureau, parce qu'avec le confinement, on est nombreux à peut-être créer un coin bureau. Quelle couleur il faut privilégier?
Alors, on en parlait tout à l'heure, les couleurs créatives, si vous avez un métier plutôt créatif, donc bleu, vert. Rouge, orangé si vous travaillez beaucoup, violet si vous avez beaucoup d'introspection. Ce qui est aussi intéressant dans votre ambiance de travail, c'est votre fond d'écran. Et ça, il commence à y avoir des études super intéressantes là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas de la même façon selon son fond d'écran. Donc, je vous conseille d'essayer de varier votre fond d'écran, surtout si vous faites une journée de 12 heures. Moi, je me rends compte, par exemple, que je fais très bien ma comptabilité dans du rouge. Voilà. Et inversement, parce que j'écris beaucoup, j'écris très très bien avec un visuel de mer en arrière-plan. Donc voilà, je vous conseille de travailler sur vos fonds d'écran. Essayez, ça coûte rien, c'est fait en 2 secondes. Et vous verrez, c'est déjà mettre de la couleur sur votre fond d'écran, déjà c'est pas mal. Ensuite, une très bonne couleur, si vous lisez beaucoup, c'est le vert. Et d'ailleurs, si vous regardez de façon empirique, partout dans le monde, les bibliothèques étaient vertes. Que ce soit en Asie, en Amérique, prenez Harvard, Oxford, Cambridge, même la Sorbonne. Vous voyez ces fameuses lampes d'opaline verte.
Bien sûr.
Ben voilà, parce qu'en fait, il y a un scientifique qui s'est dit, mais est-ce que le fait qu'il y ait du vert, autant de vert dans les bibliothèques, c'est une raison. Enfin, pourquoi autant de vert? Et en fait, on s'est rendu compte que quand on lit, on active à peu près les mêmes couleurs que quand on regarde du vert. Donc le vert, c'est la couleur la plus équilibrante. Et quand on lit, en fait, on se rend compte qu'on a besoin d'équilibre. C'est-à-dire que quand je vous disais que c'est une couleur qui est ni chaude ni froide, qui est exactement au milieu, les couleurs chaudes vont vous permettre d'être concentré. Donc quand on lit, on a besoin d'être concentré. Très bien. Mais les couleurs froides vont vous permettre de partir un petit peu dans votre imaginaire. C'est-à-dire quand vous allez lire un texte, vous allez vibrer par exemple avec le héros, donc ça c'est plutôt la partie créative. Mais vous avez envie de rester concentré. Ça, c'est plutôt la partie hémisphère droit, hémisphère gauche. C'est très caricatural ce que je dis là, mais hémisphère droit, ce serait plutôt les bleus, et hémisphère gauche, ce serait plutôt le rouge. Et quand vous lisez, vous avez besoin de vos deux hémisphères. C'est très très caricatural, hein, mais c'est pour que l'on comprenne. Donc dans du vert, on est à la fois concentré et en même temps, on fait appel à son imaginaire. Donc c'est la bonne couleur pour la lecture. Et moi je suis publié chez Flammarion et j'avais fait un petit sondage interne pour la petite histoire auprès de toutes les personnes chez Flammarion qui lisent quasiment un livre par jour, et je me suis rendu compte qu'ils avaient tous du vert. Et tous, personne ne connaissait ces études, mais tous se disaient « moi j'aime bien cette couleur ». Voilà, donc c'était leur petite voix intérieure qui leur donnait envie de mettre du vert chez eux, et c'est la bonne couleur. Mmh. D'ailleurs, regardez, beaucoup de gens aiment aller lire dans des jardins publics, donc entourés de nature, de verre, alors que par exemple, on ne lit pas très bien en bord de mer. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre plage, à la plage, vous allez lire 3 pages et vous allez vous endormir. Donc le bleu, on ne lit pas très bien, on s'endort vite, et le rouge, on peut s'énerver assez vite, enfin en tout cas pour lire un roman, par exemple, on vibrera moins avec les héros dans une pièce rouge. Donc vert, très très bonne couleur pour tous ceux qui aiment la lecture.
Comment vous avez appris tout ça? Comment on devient spécialiste des couleurs?
Alors, en fait, on en a parlé tout à l'heure, c'est parti tout simplement des couleurs d'hôpitaux que j'ai pu faire et où j'étais un peu dans les tendances, mais on se dit pas, voilà, pour des enfants malades, on va leur mettre un mur top ou un mur bleu canard parce que c'est la mode ou un terracotta en ce moment, des choses comme ça. Voilà, on sait tous que les couleurs ont une influence et j'ai voulu essayer de creuser un petit peu tout ça et je me suis rendu compte que dans le milieu des coloristes, personne ne travaillait vraiment sur les influences de la couleur, or les scientifiques, partout dans le monde, même beaucoup en France aussi, ont travaillé sur les influences de la couleur. Donc j'ai un peu compilé toutes ces données, j'en ai fait un bouquin qui au départ était l'étonnant pouvoir des couleurs, au départ c'était plus pour moi une sorte de pense-bête de tout ce que j'avais pu récolter comme information, et ce bouquin était un gros succès, il l'a encore, il a été traduit en 15 langues, etc. Donc c'est ce bouquin qui fait que maintenant, un peu partout dans le monde, je travaille beaucoup au Japon, beaucoup aux États-Unis, on vient m'appeler sur les influences de la couleur, et donc plus je travaille sur ce sujet-là, plus je rencontre de gens passionnants qui travaillent sur les influences des couleurs, et plus je me spécialise, mais à l'origine, et c'est toujours le cas, je ne suis pas un scientifique, je suis un designer.
Oui, et vous avez aussi une casquette, je disais en intro, vous êtes le directeur artistique des peintures Perrault et compagnie. Comment s'est passée la rencontre?
Alors, Perrault, P-E-2-R-O-T, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient regarder, j'ai été approché par beaucoup de marques de peinture, ça faisait un petit moment, et je m'étais toujours interdit d'y aller, parce que j'avais pas vraiment le temps, je suis beaucoup à l'étranger, et le Nasser Goulamali, qui est le patron de ce groupe de peinture qui s'appelle Comus, m'a dit, voilà, nous, on voudrait vraiment lancer une marque de peinture très haut de gamme, et vous avez carte blanche. Il m'a dit ça. Alors, j'ai dit, ah, carte blanche, c'est quand même sympa. Et tout à l'heure, on parlait des couleurs de l'année. Et je me suis dit, moi, je vais peut-être essayer de faire mes couleurs de l'année, moi aussi, à ma façon, pour essayer de donner envie aux gens de mettre de la couleur. Donc, la genèse de cette marque de peinture, c'est de me dire, et si je trouvais des couleurs qui plaisent, mais qui plaisent à tous les coups. Et pour qu'elles plaisent à tous les coups, il faut trouver quelque chose qui fait que vous êtes en confiance. Et là, j'avais la chance à ce moment-là de travailler au Japon sur les impressionnistes. Et les Japonais adorent ces couleurs, mais nous aussi en France, on les adore. Le musée d'Orsay est un énorme succès. Et je me suis dit, mais les impressionnistes, ce sont les plus grands coloristes de tous les temps. Ils étaient capables de faire des associations de couleurs il y a un siècle qui étaient extraordinaires et qu'on trouve encore extraordinaires. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont hors mode, hors tendance. Et je me suis dit, mais et si on contretypait les couleurs de ces grands tableaux? Donc forcément, ça ferait des couleurs en harmonie, et forcément, ça ferait de belles couleurs. Personne ne va dire le bleu du ciel de Renoir de La Femme à l'ombrelle, je trouve qu'il est pas terrible. Non, le bleu de La Femme à l'ombrelle de Renoir, il est magnifique. Et ça, c'était mon idée de départ. Et quand on a commencé à contretyper ces couleurs, j'avais la chance de travailler avec le musée d'Orsay, donc j'ai pu avoir accès aux couleurs exactes des tableaux. J'ai pas eu accès aux tableaux, mais j'ai eu vraiment accès aux fichiers pour avoir les couleurs exactes de ces tableaux. Quand on met un bleu de Renoir au mur, je vous garantis, il se passe quelque chose. C'est peut-être pas pour rien que ce sont considérés encore aujourd'hui comme les plus grands peintres de tous les temps. Donc voilà, donc on est parti des couleurs des impressionnistes, et après, ce que je voulais, c'était vraiment faire une peinture qui soit respectueuse de l'environnement, avec un bilan carbone qui soit faible. Et donc là, nos peintures sont faites en France, juste en région parisienne, Arpajon. On a un COV inférieur à 3 grammes, donc on est le plus possible naturel. Il y a certains pigments où on n'arrive pas à être biosourcé parce que on n'arrive pas à reproduire certaines couleurs, mais on essaye le plus possible d'avoir des couleurs naturelles, et on a des couleurs qui résistent très bien dans le temps, ce qui fait que votre couleur, elle reste vive encore au bout de 2, 3, 4 ans, parce que des fois, les couleurs fanent. Donc voilà. Donc on a créé cette marque Perrault et compagnie en se disant, on va avoir de magnifiques couleurs, une bonne peinture de grande qualité, et en même temps qui soit respectueuse de la nature. Voilà. Et bon, là, je vous cache pas qu'avec avec le coronavirus, on avait un énorme showroom qui devait ouvrir, ça risque d'être repoussé un tout petit peu, donc on trouve encore nos peintures, bien sûr, enfin, d'ailleurs elles marchent bien, on a cette chance, c'est que pendant le confinement, beaucoup de gens ont voulu repeindre chez eux, donc on a la chance de très bien marcher en ligne, donc sur perrot-si.com, vous faites peinture Perrot, vous trouvez sur Internet. Ben voilà, en tout cas, c'est une magnifique aventure, et je suis très très content, et si ça peut permettre à des personnes de mettre de la couleur chez eux, j'en suis vraiment ravi, parce que je vous garantis qu'on a besoin de couleurs.
Et ça fait combien de couleurs, du coup, au total ?
On a 100 couleurs. Alors là aussi, c'était une volonté, on n'a pas voulu faire trop de couleurs, et ça aussi, c'est dans mon souhait de faire en sorte que les gens ose la couleur, parce que prenez par exemple, là en ce moment, il y a beaucoup de terracotta par exemple. Vous voulez du terracotta, mais quand vous commencez à regarder des nuanciers, vous avez une vingtaine, une trentaine de possibilités de terracotta. Il y en a qui vont le voir un peu plus rouge, d'autres plus orangé, etc. Donc là, vous risquez d'hésiter et donc du coup de pas choisir votre couleur. Donc nous, on a essayé d'avoir, on a un terracotta, on a un bleu canard, on a un top, etc. Donc on a les couleurs tendance, mais nos couleurs tendance, notre top, on est allé le chercher sur un coraux par exemple, et autour de ce top on avait 4-5 couleurs qu'on n'aurait pas forcément naturellement associées nous, mais coraux l'a fait, et quand on regarde ce qu'il a fait, ça marche super bien. Et voilà, un top avec du violet par exemple, je l'aurais jamais fait, mais dans un tableau de coraux, vous avez du top et du violet, ça fait une magnifique association.
Bon, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. J'ai quasiment terminé. J'ai une petite question que je me permets de vous poser. C'est comment chez vous, c'est coloré ?
Ah oui, ben bien sûr, quand même. Alors moi, j'ai du framboise. J'ai un rose framboise dans mon salon, qui est une couleur géniale. Et alors, ce qui est super, ce qui est assez drôle, c'est que bon, moi, j'ai bien sûr beaucoup de couleurs dans mon bureau. Il est bleu et jaune. Vous voyez, parce que je voulais du bleu pour côté créatif, mais en même temps, je voulais du jaune pour rester réveillé et puis pour avoir du soleil. Je vous ai dit la chambre de mon fils qui est rouge, avec de la moquette rouge. J'ai mis aussi du rouge dans ma chambre. C'est une couleur que je vous recommande, qui est très sympa. Et moi, j'ai pas de problème d'insomnie, donc c'est très bien.
Mais au mur, vous avez du rouge?
Oui, absolument. Ouais, absolument. J'ai du magnifique papier peint dans les toilettes, j'ai du bleu dans mon salon. Enfin voilà. L'idée, c'est de varier les couleurs. Et en ce moment, j'ai envie de papier peint aussi. C'est-à-dire que j'ai mes couleurs. On a fait des associations de couleurs sur notre site, vous verrez, avec Au fil des couleurs, qui pour moi, vraiment, c'est un endroit extraordinaire. Si vous cherchez des jolis papiers peints, vous avez des magnifiques propositions. C'est à côté de Montparnasse. Enfin, je suis sûr que vous connaissez.
Ouais, rue de l'Abbé Grégoire.
Exactement. Donc, on est parti de leur papier peint et on s'est dit qu'est-ce qu'on mettrait comme couleur avec leur papier peint. Et voilà. Donc, moi, en ce moment, je suis très branché papier peint. Donc là, sortie de confinement, je vais mettre du papier peint. En plus, je vais continuer à mettre donc de la couleur associée à du papier peint. Pas forcément même un mur, mais une partie de mur. Je trouve que c'est magnifique.
Bon, super. Merci infiniment, Jean-Gabriel. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Et à très bientôt en vrai. Parce que c'est vrai que je précise qu'on a fait cette interview à distance. Nous ne sommes pas à côté. On a respecté les règles de confinement. Mais j'espère qu'on se recroisera très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Gabriel.
C'est moi qui vous remercie, Hortense. Je me suis régalée avec vous.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.